L'actu des Grands Causses.
L'émission du Parc naturel régional.
Jérôme Bussière, chargé de mission biodiversité, forêt et zone humide au Parc naturel régional des Grands Causses.
Qu'est-ce qu'une zone humide ?
Alors une zone humide, c'est un milieu naturel dont on trouvera en permanence de l'eau qui va influencer sur la végétation qui se trouve au-dessus du sol. Le niveau d'eau pouvant varier éventuellement, mais l'eau est toujours présente et on trouve des espèces très spécifiques, particulières, adaptées à la présence en permanence d'eau, donc à l'absence d'oxygène, ou à la présence plus ou moins élevée de certains éléments minéraux.
Qu'est-ce qu'il y a comme différents types de zones humides identifiées sur le territoire du parc ?
Les zones humides qu'on connaît le mieux sont les zones de tourbières, notamment du massif du Lévézou, qui doivent représenter à peu près la moitié des zones humides qu'on estime pouvoir trouver sur l'ensemble du périmètre du parc. Donc c'est des zones assez bien connues, notamment des botanistes, de par la flore qu'elles hébergent. Et on a notamment sur le territoire du parc un espace naturel sensible sur la tourbière des roses.
Qu'est-ce qu'on trouve comme végétation particulière ?
Notamment du fait de la faible teneur en certains éléments minéraux, on peut trouver certaines plantes carnivores, comme la drosera, qui est une petite plante avec un certain nombre de poils collants qui vont capturer les insectes et digérer les chairs pour fournir notamment l'azote, qui est indispensable pour construire les protéines nécessaires à la plante.
Quels sont les autres types de zones humides ?
D'abord, en tête de bassin versant, on va trouver les groupements de sources, c'est-à-dire toute la végétation qui est autour des sources, plus ou moins luxuriante. Et une spécificité du territoire, c'est les formations de tufs, donc les formations de mousse qui s'encroûtent quand ils sortent du karst, c'est-à-dire qu'ils libèrent une partie du dioxyde de carbone contenu dans l'eau. Et donc le calcaire qui est dissous forme des formations particulières qu'on appelle le tuf. Un des exemples, c'est les cascades de Cressel. Donc il y a certaines mousses qui poussent dessus et d'autres plantes qui sont associées, qui forment un groupement particulier d'une zone humide plutôt calcicole. Comme haute zone humide, on va trouver en miroir un petit peu des tourbières du Lévézou qui sont assises. On peut trouver des tourbières alcalines. C'est le cas de la fontaine Saint-Martin sur le Causse-Noir, par exemple. Une formation de tourbière alcaline. Ensuite, on peut avoir différentes formations, notamment en bord de cours d'eau, les ripisylves, qui sont des boisements en bordure de cours d'eau qui sont influencés par la fluctuation de la nappe d'eau au bord de la rivière. Les zones inondables sont également considérées comme des zones humides. Les marais lavognes, à sensu stricto, ne sont pas considérées comme des zones humides. On considérera plutôt ces milieux comme des milieux aquatiques, sont considérés comme zone humide, la végétation enracinée qu'on va trouver en bordure des mares ou des lavognes, qui peuvent être favorables à un certain nombre d'espèces, qui trouvent ici, sur le Causse, en tout cas, des zones qu'ils ne pourraient pas trouver ailleurs. Donc ce maillage de petites mares, de petites lavognes, est extrêmement important pour la biodiversité des Causses. Il y a des espèces qui sont strictement inféodées à ces milieux-là. Pour s'y reproduire, ce sont les libellules, les amphibiens, mais la faune sauvage va pouvoir y trouver à proximité un certain nombre de ressources, ne serait-ce que pour s'abreuver, mais les chauves-souris ou les oiseaux pourront venir chasser aux alentours de la mare puisqu'il y aura un certain nombre d'insectes qui vont les attirer.
L'actu du Parc des Grands Causses.
Qu'est-ce que ça représente sur le territoire du parc, toutes ces zones humides ?
Ces zones humides sont une très petite portion du territoire. Ça doit représenter 1000 à 1500 hectares selon un pré-inventaire sur 327 000 hectares que représente le parc. C'est une toute petite portion. Les zones humides ont deux rôles importants. L'un pour la biodiversité. En France, on estime à peu près que 20% de la flore protégée est liée aux zones humides. C'est aussi, donc, comme je disais, ce qui est valable pour les Causses et valable ailleurs, c'est-à-dire que les zones humides représentent une ressource en eau pour la faune sauvage qui viendra s'abreuver près des points d'eau. On y trouvera aussi de l'herbe un peu plus verte, notamment en période de sécheresse, du fait de la présence d'eau, même si elle est en profondeur. Autre rôle important, c'est son rôle par rapport au régime des rivières et sur la ressource en eau en général. En tête de bassin versant, c'est-à-dire à proximité des sources, les tourbières, les prairies humides ont un rôle tampon quand il y a un excès d'eau et cette eau est restituée progressivement, si bien qu'en période de sécheresse, elle participe au soutien d'étiage des rivières. C'est-à-dire l'étiage, c'est la période de basse eau en été sous nos latitudes. Elles ont aussi un rôle d'épuration pour certaines zones humides, notamment les ripisylves, qui ont un rôle d'épuration, de nettoyage de la ressource en eau, notamment en absorbant l'azote en grande quantité. On a un certain nombre d'espèces d'essences, comme l'aulne, qui est une essence de ripisylve naturellement. On trouvera aussi différents saules, par exemple, en bordure de cours d'eau. Donc le peuplier autochtone, qui est le peuplier noir. Voilà, différentes essences qui sont liées à la présence d'eau et effectivement à la fluctuation de la nappe d'eau en fonction de sa hauteur.
L'actu du parc des Grands Causses.
Quels sont les enjeux aujourd'hui sur le territoire du parc pour les zones humides ?
Aujourd'hui, le principal enjeu, c'est surtout de mieux les connaître, puisque jusqu'à présent, on avait très peu de connaissances en dehors des zones humides du Lévézou. Donc d'abord connaître, mieux connaître ces zones-là, savoir quelle biodiversité est liée à ces milieux. Ensuite, il y a un enjeu de préservation de la ressource en eau. C'est des zones assez importantes, hein, à la fois pour la quantité et la qualité de l'eau. C'est-à-dire qu'au niveau du parc, on a beaucoup travaillé sur les zones karstiques qui représentent la ressource en eau majeure du parc. Sur le reste du territoire, les ressources en eau sont principalement superficielles. Donc il y a un enjeu de préserver aussi ces ressources-là.
Le recensement se fait comment ?
Après un pré-inventaire, c'est-à-dire toute une phase un petit peu de bureau de recherche bibliographique, de recherche de données préexistantes, d'analyse des photos aériennes. Aujourd'hui, une phase de prospection de terrain est en cours depuis l'année dernière. Elle se continue cette année avec une équipe de 4 à 5 prospecteurs qui vont vérifier les données qui ont été pré-inventoriées et faire une description de ces zones. Les gens qui réalisent cet inventaire sont des prestataires de services et il y a notamment des gens du CPE du Rouergue qui font l'inventaire et du CPE de Haute-Auvergne qui se sont groupés pour répondre à l'appel d'offres. Et il y a des bureaux d'études et des prestataires indépendants qui participent également à l'inventaire. Et durant cette phase d'inventaire, on transmet un petit peu le flambeau aussi aux techniciens et personnes qui travaillent de manière générale dans les espaces ruraux et plus particulièrement sur les rivières. Les techniciens rivières, par exemple, sont des personnes qu'on essaye de toucher et d'informer au travers cet inventaire.
Une fois cet inventaire réalisé, qu'est-ce qui va se passer ?
Plusieurs choses. La première, c'est de travailler sur la sensibilisation et l'information. Il y aura notamment l'édition d'un guide sur les zones humides du territoire du parc. Et ensuite, pour la gestion de ces zones, on travaillera essentiellement avec les communes au travers des documents d'urbanisme. Et on travaillera également avec les agriculteurs qui sont les gestionnaires principaux de ces espaces. Et il existe en Aveyron une cellule d'assistance technique à la gestion des zones humides qui est portée par l'ADASEA, donc une structure qui est susceptible d'apporter des conseils auprès des agriculteurs pour gérer ces zones-là et leur apporter différentes informations quant aux éléments réglementaires également, puisque ce sont des zones qui sont extrêmement réglementées. Elles font l'objet d'un décret qui les définit, qui fait 78 ou 80 pages. C'est sans doute un des milieux naturels les mieux définis dans la législation française.
L'actu du parc des Grands Causses.
D'ici la fin du mois de juin, le parc publiera un petit dossier technique concernant la restauration et la création de mares. On aborde dans ce petit document également la question des lavognes sous le point de vue biodiversité, c'est-à-dire quel est le rôle de ces milieux par rapport à la biodiversité et comment on peut les gérer, les entretenir ou les restaurer de façon suffisamment douce pour ne pas altérer la faune ou la flore qu'ils accueillent. Point important qu'on souligne un petit peu dans ce document, c'est d'éviter d'y apporter des poissons, quels qu'ils soient, poissons rouges ou autres carpes, qui sont des prédateurs pour la faune des lavanes, que ce soit les larves d'amphibiens, les têtards, ou les larves de certains insectes comme les libellules. Le guide sur la restauration des mares et lavognes a fait l'objet d'un travail avec le CPE et la LPO de l'Aveyron, et qu'il s'est basé aussi sur l'expérience qu'on avait au parc sur la restauration d'un certain nombre de mares, notamment les dernières qu'on a restaurées sur la commune de Saint-Jean-Saint-Paul, en particulier la mare de Massergue, qu'on peut voir depuis le bord de la route, qui a été restaurée via l'intervention de l'équipe d'agents d'entretien de l'espace rural du parc.
L'actu du parc des Grands Causses, une émission réalisée par Radio Larzac et Radio Sainte-Afrique. Retrouvez l'actu du parc des Grands Causses tous les samedis dans le Midi Libre.